master donc, qui va arriver. Voilà, il se prépare, là, ça y est. Il lui manque plus que le casque. Hein. Il a déjà tout l'attirail. Voilà. Père Céleste, merci Seigneur de nous permettre vraiment de grandir dans ta parole. Merci de nous permettre voilà, de pouvoir être fidèles à ta parole. Alors Seigneur, ce matin, ouvre nos oreilles, ouvre notre esprit, notre intelligence, Seigneur. Seigneur, que ces graines qui vont être semées par ton Saint-Esprit, Seigneur, vont germer, Seigneur, et vont vraiment briser les forteresses. Et Seigneur, nous te remettons notre pasteur, son épouse, ses enfants, Seigneur. Tu les guides et tu les réconfortes et tu les accompagnes. Amen.
Amen. Bonjour à toutes et à tous. Et le thème un peu de ce message, et puis que ça sera aussi le thème pour un certain nombre de prédications, c'est être une communauté prophétique. Je ne sais pas si c'est allumé, hein. Ouais, c'est allumé, ça va. Je peux mettre plus fort même. C'est pour ça que j'ai mis cette petite lumière, on reviendra là-dessus. C'est une série qui va prendre pour fondement le livre des Actes. On va parcourir quelques textes dans le livre des Actes et voir ce que c'est être une communauté prophétique ensemble. Si vous connaissez le livre des Actes, au premier chapitre, chapitre 1 du livre des Actes, Jésus est monté au ciel, il est venu sur la terre, il est mort, il est ressuscité, il est reparti, il a béni ses disciples, et ses disciples sont rassemblés comme un petit groupe, hein, ils ne sont pas encore très nombreux, mais déjà plus d'une centaine, mais quand même, voilà, ils sont rassemblés à Jérusalem, ils passent du temps ensemble, ils sont dans la prière ensemble. Ça, c'est acte 1. Et je crois que parfois, il nous arrive de penser que c'est ça l'Église. C'est un petit groupe de chrétiens qui se retrouvent pour prier ensemble dans la chambre haute, discrètement, bien au chaud entre nous. Mais si c'est ça notre vision de l'Église, c'est qu'on est resté bloqué au chapitre 1 du livre des Actes. Hein. Parce que les 27 autres chapitres du livre des Actes montrent comment ce petit groupe de disciples du Christ va en quelques années devenir un peuple, va être à l'origine d'un peuple très nombreux qui va se répandre à travers toutes les nations. Et on va découvrir comment des hommes et des femmes qui sont tout à fait ordinaires, sans grandes éducations, qui ont été voilà, des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, et qui vont être utilisés par Dieu pour propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ à travers tout l'Empire romain, depuis Jérusalem jusqu'à Rome. C'est ça la naissance de l'Église dont nous sommes aujourd'hui quelque part héritiers. Mais avant qu'ils se mettent en route, justement, il y a un événement qui se produit, bien connu. Vous savez tous de quoi je parle, je pense, qui est raconté au chapitre 2 du livre des Actes. C'est la venue du Saint-Esprit sur ses disciples le jour de la Pentecôte. Et c'est ce jour-là que ces gens ordinaires vécurent un événement extraordinaire qui va transformer leur vie et surtout leur service pour Dieu. Et ce jour-là, ce petit groupe de disciples va être visité par le Saint-Esprit, devenir ce peuple prophétique qui va impacter l'histoire de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Alors on va lire juste les premiers versets du chapitre 2 des Actes, acte 2, versets 1 à 4. Vous comprendrez pourquoi j'ai mis une lampe torche. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. On va s'arrêter là pour le moment. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je suis donc venu avec une lampe frontale sur la tête. Hein. Merci Adnan qui me l'a prêtée. Parce que vous savez, à l'époque biblique, époque du Nouveau Testament, du texte que nous venons de lire, on n'avait pas encore découvert l'énergie électrique, on ne savait pas trop encore l'utiliser, on n'avait pas encore de lampe frontale comme ça. Vous savez comment on s'éclairait à l'époque ? Avec du feu. On avait des torches de feu, ou alors des lampes à huile qui maintenaient une flamme qui permettait d'éclairer les maisons la nuit. On s'éclairait par le feu. On l'oublie parfois, parce que ce n'est plus trop notre façon de vivre. Et lorsque le texte dit que le Saint-Esprit vient descendre, se manifester sur les disciples le jour de la Pentecôte, on nous dit qu'il se manifeste sous forme de langue de feu. Les langues de feu qui se posent sur la tête de chacun. Cette image bien connue, hein, qu'on pense à la Pentecôte. Vous voyez, une sorte de lampe frontale. Et cette image, c'est un moyen utilisé par Dieu pour faire comprendre aux disciples que le Saint-Esprit les équipe pour faire d'eux ses témoins prophétiques. Vous savez, Jésus avait dit à ses disciples dans les évangiles, on connaît bien cette parole, « Vous êtes la lumière du monde. » Et à la Pentecôte, ils comprennent que c'est uniquement par le Saint-Esprit qu'ils pourront être cette lumière. Vous voyez l'image ? Et ce feu qui est sur leur tête, nous est-il dit, est aussi sous forme de langues, des langues de feu. Étonnant. Probablement que là aussi, c'est une manière que le Saint-Esprit veut utiliser pour montrer qu'il veut utiliser la langue des disciples pour transmettre la parole de Dieu. Vous avez d'autres passages de la Bible qui parlent de la parole prophétique comme d'un feu dans la bouche de celui qui prophétise, des prophètes. Et de fait, le texte nous dit que les disciples, lorsque le Saint-Esprit vient sur eux, ils commencent à parler sous l'inspiration. Et ils commettent à parler dans diverses langues étrangères, et bien entendu des langues qu'ils n'avaient jamais apprises, eux qui n'avaient pas fait forcément de grandes études à l'école. À travers cela, le Seigneur est en train de montrer à ses disciples qui sont appelés à ne pas rester à Jérusalem, bien entre eux, mais à être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre, comme Jésus leur avait dit avant de monter au ciel. Et cette mission, elle ne repose pas sur leur propre force, mais sur la puissance du Saint-Esprit qu'il déverse sur eux. Qu'est-ce que ça nous dit pour l'Église ? En général, l'Église universelle, hein, c'est que l'Église du Christ n'est pas appelée à être un petit club de potes qui se retrouvent entre eux pour prier, mais à former un peuple prophétique qui va amener la lumière du Christ dans toutes les nations. Et nous, en tant que communauté du point du jour, nous sommes appelés à être, à notre échelle locale, en tant qu'Église locale, une manifestation locale de ce peuple prophétique, comme toutes les églises du monde le sont. C'est notre appel, à notre échelle, dans le contexte où nous sommes, là où nous sommes, nous qui composons cette Église. Mais est-ce que c'est là notre vision de l'Église ? Est-ce qu'on a compris cette dimension prophétique de l'Église ? Et c'est de ça qu'on va parler un peu pendant ces prochains temps, déjà aujourd'hui et puis à l'occasion de dimanche. Alors pour bien comprendre cela, il faut qu'on poursuive maintenant aussi un peu notre lecture. Lorsque les disciples, vous rappelez, se mettent à parler dans diverses langues, le texte nous dit que les gens les entendent, ils sont étonnés et qu'il y a du monde qui commence à venir et à courir. Ils se demandent ce qui se passe parmi ce groupe d'individus. Il y en a qui les voient et qui sont stupéfaits d'entendre ces provinciaux parler dans la langue d'où ils viennent, parce que c'est des gens qui viennent de différents pays, qui sont réunis à Jérusalem, des juifs de différentes nations, qui sont là pour la fête de Pentecôte, qui était une fête juive, une fête importante dans le judaïsme. Et voilà, ils les entendent parler dans leur langue de là où ils viennent. Et d'autres se disent... C'est quoi ce brouhaha là ? Je pense qu'ils ont pris un peu l'apéro un peu tôt. Hein, là. Et c'est alors que Pierre fait taire la foule et qu'il prend la parole. Et on va lire ce qu'il va dire à ce moment-là. Acte 2, verset 14. Acte 2, 14. Alors Pierre se leva entouré des 11 et d'une voix forte, il dit à la foule, « Écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe. » Pierre va expliquer. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes seraient ivres. Mais pas du tout, il est à peine 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël dans l'Écriture. Et là, il va citer ce texte de Joël qu'on trouve au chapitre 3 du livre de Joël. Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Je répandrai de mon esprit sur tout le monde. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens par des visions, vos vieillards par des songes recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs. C'est juste après, la diapo d'après. Vous passez la diapo d'après. Oui, sur mes serviteurs, comme sur mes servantes. C'est en haut. Super. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là. Ils prophétiseront. Le texte ajoute de Joël, hein, je ferai des miracles, et là-haut dans le ciel et ici-bas sur la terre, des signes prodigieux, du sang, du feu, des colonnes de fumée, et le soleil s'obscurcira, la lune deviendra de sang, au vent la venue du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors seront sauvés tous ceux qui invoquent le Seigneur. Voilà l'apôtre Pierre qui prend la parole pour expliquer ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il va citer une prophétie de l'Écriture, de l'Ancien Testament, dans laquelle Dieu avait promis de déverser son esprit sur tous les membres de son peuple. Et il dit, voilà, ça y est, c'est ce qui se réalise aujourd'hui. Cette promesse se réalise. Ce que le prophète Joël avait annoncé plusieurs siècles auparavant, ça y est, le jour de la Pentecôte, ça se produit. Et qu'est-ce que dit ce texte ? Que le Saint-Esprit qui est déversé sur les disciples à la Pentecôte et sur toute l'Église depuis, hein, c'est l'esprit de prophétie. C'est-à-dire, c'est l'esprit qui inspirait les prophètes de l'Ancien Testament, hein. Le même esprit qui est aussi venu sur Jésus-Christ lors de son baptême et Jésus qui est le prophète par excellence dans la Bible, et ce même esprit qui maintenant n'est plus déversé seulement sur quelques figures bien spécifiques, sur quelques prophètes, mais sur tous les membres du peuple de Dieu, il est dit ici. Hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, il n'y a pas d'âge, esclaves et hommes libres, il n'y a pas de statut social, tous sont au bénéfice de l'esprit de prophétie. Tous forment ensemble un peuple prophétique. Et ce peuple, tu en fais peut-être partie, hein ? En tout cas, si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que tu as accepté comme ton Sauveur, qu'il a pardonné tes péchés en mourant à ta place sur la croix, si tu as placé ta foi en lui, qu'il est ton Sauveur, ton Seigneur, alors, de fait, tu es un membre de son peuple et de ce peuple-là. Ce peuple prophétique. Et si tu es chrétien et que ça affecte, que c'est pour toi quelque part plus qu'une simple déclaration, alors ça devrait affecter toute ta vie. Et si tu vis cette relation profonde et sincère avec Dieu, si tu l'expérimentes au quotidien, eh ben c'est parce que l'Esprit de Dieu repose en toi. Et ça, ça n'a rien d'anecdotique. Je ne sais pas si on réalise, on dit ouais, « j'ai l'Esprit de Dieu en moi » ou « l'Esprit de Dieu est là, le Saint-Esprit est avec nous ». Mais le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Et Dieu ne nous donne pas son Esprit pour qu'on puisse se dire « ah, c'est cool, ça fait tout plein de frissons, c'est chouette, je ressens ça, ah, c'est doux, c'est beau, c'est bon, c'est confortable ». Alors c'est bien, ça fait ça aussi parfois, hein. On ressent la présence du Seigneur et c'est bon, bien sûr. Mais ce n'est pas juste ça. Il nous donne une puissance. C'est ce que dit Jésus à ses disciples. Je vous enverrai le Saint-Esprit, une puissance, et vous serez mes témoins. Une puissance pour, non pas devenir baraque et en boxe, hein, mais parce que pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour transformer les vies. Une puissance qui permet d'être justement ces témoins prophètes du Seigneur dans ce monde. Est-ce que nous sommes conscients de cela ? Est-ce que nous sommes conscients de la lumière que nous sommes appelés à porter. Je n'ai pas de langue de feu, mais... Et ce que ce texte rappelle, et ce que j'aimerais aussi rappeler en ce temps de rentrée pour notre Église, c'est que ce rôle, nous ne sommes pas simplement appelés à le jouer tout seul, dans notre coin. Alors oui, nous sommes appelés à le jouer dans nos familles, dans nos lieux, là où le Seigneur nous place. Mais nous ne sommes pas seuls. C'est ensemble que nous sommes appelés à former ce peuple prophétique, cette communauté prophétique. Et lorsque l'apôtre Pierre prend la parole le jour de la Pentecôte, si vous connaissez, voilà, je ne lis pas tout le texte, mais ensuite, si vous vous souvenez, il va annoncer l'Évangile, après avoir dit « voilà ce qui se passe maintenant », et il annonce l'Évangile, il dit « voilà, Jésus est venu, il a fait des miracles, il est mort sur la croix, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père, et il veut vous sauver ». Il va dire ça à tous ceux qui sont réunis. Alors croyez, repentez-vous, soyez baptisés. Et voilà ce qui se passe le jour de la Pentecôte. Et le texte nous dit que plus de 3000 personnes acceptent le message du salut, sont baptisées ce jour-là. Et c'est le début de cette église, on va dire, première église, celle qui est à l'origine de toutes les autres, qui est à Jérusalem. Et c'est déjà, ce sont déjà plus de 3000 dès le départ. Hein. Et le récit de la Pentecôte se conclut avec ces versets qu'on trouve à la fin du chapitre 2, qu'on va lire ensemble, qui résument un peu ce qu'était la vie de la première église de Jérusalem. Chapitre 2, verset 42, on peut l'afficher. « Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain, à prier ensemble. » Tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges, de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Et tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu, le peuple tout entier leur était favorable, et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Voilà un résumé de ce qu'est une communauté prophétique. Et qu'est-ce qui se passe lorsque le Saint-Esprit vient transformer les hommes et les femmes pour en faire des témoins prophètes? Est-ce que tout le monde se disperse et repart chez soi, et puis on... Voilà. Non. Il n'y a pas seulement cette dimension d'aller, il y a aussi cette dimension d'être tous ensemble. C'est marquant dans le texte qu'on a lu, ça revient, ils sont tous ensemble, ils sont en communion, ils sont unis, ils sont d'un commun accord, ils mangent ensemble, ils partagent tout, il y a une vie communautaire qui est là. Et ce qui montre que ce peuple prophétique, ce rôle de témoin prophétique, on n'est pas appelé à le jouer tout seul, mais ensemble. Parce qu'en Jésus-Christ, c'est vrai, nous sommes tous des inspirés, nous avons tous reçu le Saint-Esprit. D'une certaine manière, nous sommes tous des prophètes dans ce monde. Mais le Saint-Esprit se manifeste aussi de différentes manières. Il parle à travers nous de différentes manières. Il diverse des dons différents. On pourrait se dire, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous uniformes, pareils, dans notre façon de vivre notre témoignage chrétien? Ben, peut-être parce que le Seigneur veut nous rappeler qu'on a besoin des autres. C'est dans la complémentarité des dons que nous pouvons être ce peuple prophétique. Et depuis la Pentecôte, ça c'est une différence majeure entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est que la vie prophétique, elle ne se vit plus comme dans l'Ancien Testament. Vous savez, les prophètes un peu comme Lucky Luke à l'époque, seul contre tous, qui parfois était assez rejeté. Désormais, c'est tout le peuple de Dieu qui a cette rôle, cet appel prophétique. On n'est pas seul, ça se vit ensemble. C'est ensemble que nous sommes appelés à être des témoins prophétiques du Christ dans le monde. L'esprit de prophétie a été déversé sur tous, dit le texte. Et dans le récit des Actes, on a aussi cette image, vous savez, les langues de feu. Il est dit qu'il y a des langues de feu qui se divisent et qui vont se poser sur chacun des têtes. Et je trouve que c'est une belle image parce que ça montre que oui, chacun reçoit le Saint-Esprit individuellement, mais c'est la même source, c'est le même feu. C'est l'unique Saint-Esprit. Dans l'Apocalypse, vous avez aussi une image qui est utilisée pour parler des églises locales, c'est le chandelier. Les églises sont comme des chandeliers, elles apportent la lumière. Donc il y a un rôle ensemble qu'on peut avoir en tant que communauté dans ce domaine-là. Alors vous allez me dire peut-être concrètement, ça veut dire quoi, être une communauté prophétique ? C'est des beaux mots, hein, mais concrètement, c'est quoi dans la vie de tous les jours ? Eh bien, le livre des Actes nous donne un certain nombre de caractéristiques qu'on va développer au fur et à mesure des prochaines prédications, des prochaines semaines. Mais pour aujourd'hui, je vais juste vous introduire un peu, résumer quelques caractéristiques qu'on trouve dans le livre des Actes, en espérant que ça vous donne envie pour la suite, pour les prochains dimanches. Premièrement, l'Église est peut-être comme une, on pourrait dire, si on parle de lumière, hein, comme une lampe un peu multicolore, un peu comme ces LED multicolores que sont à la mode aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, voilà, un peu comme, ou des choses comme ça, ou une guirlande multicolore. Pourquoi ? Parce que, ça c'est quelque chose d'assez intéressant et d'assez frappant, c'est que le texte de Joël, que Pierre cite lorsqu'il dit « voilà ce qui se passe maintenant dans l'Église, dans le peuple de Dieu », montre que ce peuple est diversifié. Vos fils et vos filles prophétiseront. Il n'y a pas de différence entre les sexes. Hommes et femmes sont concernés. Et toutes les générations sont concernées aussi. Les jeunes gens et, aujourd'hui on traduirait vos retraités ou vos seniors, vos jeunes gens auront des visions, vos seniors auront des songes. Il n'y a pas d'âge. Et les enfants, tout à l'heure, on a dit qu'ils seront l'avenir de l'Église, mais ils sont même le présent de l'Église. Ils font partie de l'Église. Jésus accueille les enfants. Ils sont là, toutes les générations, des plus jeunes, aux moins jeunes. C'est prévu, c'est ce que Dieu veut. Et eux aussi, ils ont un rôle à jouer dans leur école, là où ils sont, prophétiquement. Ce n'est pas non plus nécessaire d'être diplômé, ni d'avoir un haut statut social. La prophétie de Joël dit que même les esclaves bénéficieront de l'esprit de prophétie, c'est-à-dire à l'époque biblique, c'est la couche sociale la plus basse. Il n'y a pas de discrimination en fonction du statut social. Et comme le montre aussi le livre des Actes et bien des textes du Nouveau Testament, il n'y a pas non plus de distinction, il n'y en a plus même en Jésus-Christ, entre juifs et non-juifs. Tous sont concernés. Et toutes les nations, toutes les cultures vont être appelées à l'Évangile, à faire partie de ce peuple. Vous voyez, une communauté de tous âges, de tout arrière-plan, de toute culture origine, et qui vit ensemble, qui partage tout. Je ne sais pas si on réalise quand même, mais il n'y a qu'en Jésus-Christ que c'est possible, hein, concrètement. Et ça, c'est déjà prophétique de vivre ça concrètement, cette diversité. Une lumière de toutes les couleurs. Deuxièmement, deuxième image, c'est peut-être celle de la lampe torche. C'est une lampe torche, alors pas forcément la torche olympique, mais la torche qui éclaire comme ça, celle des aventuriers, qui me semble pourrait illustrer l'idée que la communauté prophétique, c'est une deuxième caractéristique, est appelée à être une communauté missionnaire, communauté de témoins. Quand on parle de missionnaire, ce n'est pas forcément partir au bout du monde, mais c'est appeler vers, à sortir des murs, on va dire, de l'Église, appeler vers ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Et ça, c'est vraiment central dans le livre des Actes. Le Saint-Esprit équipe son Église pour la mission, pour être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. C'est cet Esprit qui est là pour guider cette mission, qui va orienter toutes les étapes de la mission, qui va faire que ces gens, ces disciples, deviennent ces témoins dans ce monde. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Quand on a compris la dimension prophétique de l'Église, on ne peut plus rester juste entre nous, mais on est appelé à témoigner autour de nous, dans notre contexte, parfois à partir même plus loin, si le Seigneur nous y appelle. Pour être témoin du Christ dans ce monde, une communauté missionnaire, comme une lampe torche qui va amener la lumière là où il y a besoin d'éclairer des nouveaux sentiers ou des nouveaux chemins. Troisièmement, la communauté prophétique est un peu aussi comme une lampe chaleureuse ou peut-être un feu de cheminée. C'est un autre type d'éclairage, vous savez, un feu de cheminée en hiver, c'est chaleureux, c'est l'idée des relations. Une communauté qui est marquée par des relations profondes et généreuse. Et ça, ça fait partie de la vie de l'Esprit. Dans les Actes, c'est fort, c'est marqué. Dans le texte qu'on a lu, c'est souligné 15 fois. les relations engageantes, les relations qui sont plus que simplement s'asseoir l'un à côté de l'autre une heure et demie ou deux heures par dimanche. Hein. La vie de l'Église, c'est bien plus que ça. C'est des relations fortes, engageantes. Le texte nous disait que dans l'Église primitive, alors en tout cas à Jérusalem, ils allaient jusqu'à mettre tout en commun, même leurs finances, et à partager avec ceux qui sont dans le besoin, qui, voilà, pour que tout le monde... c'était très fort. Alors, ça, c'est, on reviendra sur ce point, mais c'est vrai que ça ne s'est pas longtemps vécu dans l'histoire de l'Église, mais c'est pour nous montrer que c'est engageant, les relations. Si on laisse le Saint-Esprit conduire nos vies, on ne peut plus vivre simplement une vie d'Église juste distante. Quatrièmement, je dirais, cette dimension des relations est aussi prophétique, et on verra ça. Mais quatrièmement, ce serait l'image d'une lampe orientée vers le ciel. Je ne sais pas si j'ai essayé de trouver une image, mais voilà, une lampe avec le ciel, une lampe qui éclaire le ciel ou qui pointe vers le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la louange, la vie de prière ici que j'évoque. Et ça aussi, la dimension prophétique se manifeste par l'inspiration du Saint-Esprit dans notre vie de prière, dans notre vie de louange, lorsqu'on loue Dieu ensemble, lorsqu'on prie ensemble. Et dans le passage qu'on a lu, tout à la fin, là, le dernier passage, on a aussi la mention de la prière. Ils étaient réunis pour prier ensemble. Ils louaient Dieu dans le temple, nous dit le texte. Dans le début de l'évangile de Luc, qui a été écrit par le même auteur que les Actes, hein, on a aussi des exemples de personnes comme Zacharie, Élisabeth ou Marie qui vont être inspirées par le Saint-Esprit pour adresser une prière ou une louange à Dieu. Et c'est présenté dans ces textes justement comme une forme de prophétie aussi. La louange a une dimension prophétique quand on proclame la parole de Dieu par nos chants. Et là aussi, c'est le Saint-Esprit qui veut inspirer tout cela et conduire notre prière, notre louange. Cinquièmement, ce serait l'image d'un lampadaire qui éclaire le chemin. Vous savez, on a bien besoin, on est content d'avoir des lampadaires qui éclairent nos rues. Nous, on a vécu à Madagascar, et ça, c'est frappant. Quand on n'a pas d'éclairage public la nuit, on voit rien en ville. On n'ose pas trop sortir, du coup, parce qu'il y a aussi de l'insécurité qui est liée. La Bible nous dit un verset des psaumes, qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Et une communauté prophétique fonde sa vie, son message sur l'enseignement de l'Écriture, qui est la parole de Dieu sûre et solide. Et c'est ça qu'on voit aussi dans les Actes. Le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre, lorsqu'il se lève pour dire « Voilà ce qui se passe », qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il dit « Le Seigneur m'a montré que ce qui se passe aujourd'hui, j'ai eu une vision ?» Non. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, se passe aujourd'hui ce que l'Écriture a promis. Il cite l'Écriture. Et si vous lisez son discours, plus de la moitié de son discours, c'est des citations de la Bible, le livre de Joël, ensuite des psaumes. Parce que c'est le fondement de son enseignement. Le fondement de l'enseignement des apôtres, c'est l'Écriture. Et ça, c'est fondamental aussi pour la vie de l'Esprit. Alors, bien entendu, vous allez me dire, mais moi, Timothée, tu n'as pas encore parlé de la prophétie en soi, des paroles prophétiques, de parler en langue, tout ça. Bien entendu, ça en fait partie. Et c'est le point d'après, c'est la dimension prophétique de l'Église se manifeste aussi par la mise en œuvre de ce qu'on appelle généralement les dons spirituels, c'est-à-dire le parler en langue, la prophétie, parole de connaissance, parole de sagesse que le Seigneur peut inspirer par son Saint-Esprit. Personnellement, je préfère parler de dons prophétiques, parce qu'il s'agit vraiment de dons qui sont liés à transmettre un message de la part du Seigneur, inspiré par le Saint-Esprit. Saint-Esprit veut nous utiliser dans ce domaine aussi, transmettre une parole, une pensée, une image d'encouragement. Et on verra aussi, on parlera de ça aussi lors d'une prochaine prédication. Mais souvent, c'est vrai que dans les milieux pentecôtistes charismatiques, on fait partie de ces milieux-là, nous, en tant qu'Église, on a tendance à nous focaliser sur ces dons-là, en particulier quand on pense à la vie de l'Esprit. Mais quand vous regardez le livre des Actes, c'est une des dimensions de la vie de l'Esprit. C'est une dimension qui est importante et je pense qu'on doit l'encourager dans notre vie d'Église, mais ce n'est pas la seule. Et c'est pour ça que j'ai voulu rappeler aussi d'autres choses qu'on ne met pas forcément, nous, dans la dimension prophétique ou dans la dimension de la vie de l'Esprit, parce qu'on dirait, oui, non, c'est plus classique, on va dire. Mais pourtant, le livre des Actes Et la Bible fait clairement le lien entre les deux. Mais voilà, on va aussi parler de cette dimension des dons spirituels. Et puis dernièrement, il y a un lien entre la dimension prophétique de l'Église et le fait qu'il y ait des signes et prodiges, des miracles qui se produisent en son sein. Et dans le texte de Joël, il y a ce lien qui est fait. Vos fils et vos filles prophétiseront, le Seigneur fera des signes et des prodiges, en haut dans le ciel, en bas sur la terre. Et la suite du texte des Actes va montrer que de la même manière que Jésus a fait des signes et prodiges, les apôtres, puis les disciples, les chrétiens, peuvent aussi faire des signes et prodiges qui accompagnent la prédication de l'Évangile. Alors pourquoi c'est lié à la dimension prophétique? Parce que, si vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, c'est surtout des prophètes qui vont faire des miracles. Moïse, Élie, Élisée, Ésaïe, par exemple. Pourquoi est-ce que Dieu utilise surtout des prophètes pour faire des miracles? Mais parce que les miracles sont des signes. Et c'est le panneau lumineux, voilà, des signes lumineux qui ont besoin d'être expliqués. Un signe a besoin d'être expliqué par la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est lié. Et si les miracles ne sont pas accompagnés par la parole de Dieu qui dit, voilà ce qui s'est produit là, là c'est le Dieu Tout-Puissant, c'est Jésus-Christ, c'est notre Sauveur, celui qui veut te sauver, qui manifeste ça. Si on ne fait pas ça, ben, des guérisons, on peut attribuer ça à l'époque au Dieu d'Égypte, au Dieu Baal, à l'époque de la Bible. Aujourd'hui, on attribuerait ça à Mère Nature ou à je sais quelle énergie. Et c'est fondamental de pouvoir expliquer le sens des signes. Sinon, on passe à côté du but des miracles. Et ça, c'est aussi lié à la dimension prophétique de l'Église. Nous avons pour mission de prêcher la parole de Dieu qui va donner ce sens aux signes et prodiges que le Seigneur fait parmi son Église. Voilà un peu notre programme lumineux. J'espère que ça vous donne envie de voir ça pour la suite. Mais pour terminer, j'aimerais juste prendre ces premiers versets d'Ésaïe 60, qui me semble, voilà, j'aime beaucoup ce texte aussi, Ésaïe 60, versets 1 à 3. Alors ça ne s'affiche pas, mais je vais vous le lire. Ça dit « Lève-toi, lève-toi, resplendis ». Et Dieu dit ça à son peuple. Il dit « Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière, car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Voici que les ténèbres couvrent la terre, une nuée sombre couvre les peuples, mais sur toi l'Éternel se lèvera lui-même comme un soleil, et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. Des peuples marcheront à ta lumière, et des rois à cette clarté qui s'est levée sur toi. » Je crois que ce texte nous rappelle que notre monde, depuis que le péché est entré dans le monde, il est dans la nuit. Les ténèbres couvrent la terre depuis Adam et Ève. Et notre monde ne sait plus discerner ce qui est bien ou mal à cause du péché qui l'aveugle. Un monde qui ne perçoit plus la présence de Dieu. Un monde de ténèbres. Mais nous avons vu la lumière du Christ. Nous avons vu le soleil de justice. C'est le Christ, c'est une image pour parler du Christ qui se lève à l'horizon. Nous avons vu le jour qui vient, le jour qui se lève. Nous avons vu cela. Et nous avons cette lumière du Saint-Esprit, ces flammes de feu, cette lampe torche qui vit en nous. Cette lumière qui vit en nous et qui veut rayonner à travers nous. Et si on a compris ça, alors notre vocation prophétique, elle prend tout son sens. Nous avons l'Esprit du Dieu vivant qui est en nous, qui est dans notre vie. Nous connaissons la parole de Dieu. En tout cas, on essaye de la connaître. Ou peut-être si on ne la connaît pas bien, il faut progresser. Mais on y a accès, on a compris ce que Dieu veut pour nous. Et c'est notre rôle de faire connaître notre Dieu à ce monde qui l'ignore. C'est à nous que le Seigneur confie cette mission de briller, de resplendir, d'être cette lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres. C'est à nous de rappeler ce qui est bien ou mal dans un monde qui en perd de repères. C'est à nous d'apporter ce message de délivrance, on a chanté tout à l'heure, à un monde qui est prisonnier dans le péché. C'est à nous d'apporter un message de salut à un monde qui est placé sous le jugement de Dieu. C'est notre rôle. C'est à nous de faire entendre la parole de Dieu à ce monde qui est devenu sourd. C'est à nous de faire voir Dieu à ce monde qui est devenu aveugle. Et ça, c'est notre rôle. Chacun d'entre nous, si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, Dieu veut nous utiliser pour cela. C'est notre rôle en tant que communauté aussi prophétique du point du jour. Vous êtes d'accord? C'est notre mission, c'est notre appel. Alors on pourrait se dire, ça fait quand même un peu peur tout ça. Hein. Moi, je ne suis pas très brillant, en tout cas pour ma part. Hein. Pas tous les jours très brillant. Mais c'est vrai que cette mission, cet appel, si on pense pouvoir le faire par nos propres forces, de toute façon, ça ne marchera pas. On n'y arrivera jamais. Hein. Mais justement, ce n'est pas par nos propres forces qu'on peut l'accomplir et que le Seigneur nous appelle à l'accomplir. Nous sommes ensemble et surtout nous avons reçu la puissance même de Dieu, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, nous dit la Bible. Dieu parmi nous. Est-ce que nous sommes prêts à le laisser nous équiper, à le laisser nous faire entrer dans l'appel qu'il a pour nous? Amen. Est-ce que nous sommes prêts à lui dire « Oui, Seigneur, brille à travers moi, que je puisse resplendir autour de moi, non pas par la lumière que je n'ai pas trop spécialement par moi-même, hein, mais par cette lumière que tu viens placer en moi, celle de ton Saint-Esprit. » Je demandais au groupe de louanges, on va prendre un chant pour répondre aussi à cela, à la parole de Dieu, un chant qui dit Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Le chant commence en disant, oui, nous voulons être ce peuple que ton cœur désire. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, celui que ton cœur désire. Est-ce que c'est votre désir? C'est ce qu'on va chanter ensemble, mais on peut peut-être...